Des informations nous sont parvenues selon lesquelles le Pérou a mis en place des lignes directrices en matière d'éducation sexuelle complète, mais l'on nous a également informé du fait qu'un projet de loi datant de 2024 reconnaît que les parents ont le droit de choisir l'éducation sexuelle dont leurs enfants bénéficieront. Quel est l'objectif de ce projet de loi? Ensuite, est-ce que le personnel chargé d'éducation est formé en la matière? C'est le personnel, ce sont les enseignants qui vont présenter ces informations. Quelles sont donc leurs formations en la matière et quelles sont les mesures concrètes prises par le gouvernement pour que ces lignes directrices soient mises en œuvre dans l'ensemble du territoire du Pérou en temps voulu? Nous constatons également que le Pérou n'a pas donné suite aux constatations du comité s'agissant de la dépénalisation de l'avortement dans tous les cas d'adolescents d'enfants, de grossesse d'enfants, et concernant la garantie d'accès à des services d'avortement légaux et sûrs pour les filles enceintes. Nous avons reçu des informations selon lesquelles l'accès à ce service est limité en raison de divers obstacles réglementaires, absence d'informations et objections de conscience de la part du personnel médical. La communauté médicale hésite à effectuer des avortements, décourage les médecins de effectuer des avortements thérapeutiques. La menace de poursuite empêche également les médecins de s'occuper d'avortements thérapeutiques. Quelles formations sont dispensées au personnel de santé et d'éducation et judiciaire, y compris le bureau du procureur public concernant l'application et l'interprétation de la législation en matière d'avortement thérapeutique? Dans l'affaire de Camila contre le Pérou, le comité a demandé que des réparations effectives soient dispensées à Camila, y compris une indemnité adéquate et la possibilité pour elle de reconstruire sa vie, notamment en poursuivant ses études. Pourriez-vous nous expliquer en détail quels progrès ont été consentis pour s'acquitter de cette obligation? Ensuite, en matière de santé mentale, nous sommes préoccupés par des rapports attestant d'une augmentation dans les cas de dépression et des taux de suicide ces dernières années. Qu'avez-vous prévu pour y pallier? Ensuite, les niveaux de vie. Nous avons reçu des informations selon lesquelles, depuis 2019, 3,3 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté au Pérou depuis 2019. La pauvreté est notamment plus élevée parmi les enfants de moins de 17 ans, alors que 38,5% d'entre eux sont touchés, et la pauvreté touche davantage les régions de l'Amazone et la région andine. 5,7% de la population vit dans la pauvreté extrême en 2023 au Pérou, soit 5,7% de la population n'est pas à même de couvrir le coût de ses besoins quotidiens en matière de nutrition. Nous avons également reçu des informations selon lesquelles le programme d'alimentation en milieu scolaire ne touche pas tous les étudiants, surtout ceux qui suivent une éducation secondaire. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour s'attaquer à la pauvreté, en particulier la pauvreté extrême dans l'ensemble du pays? Et quelles sont les mesures prises pour veiller à ce que tous les enfants soient nourris comme il se doit? Dans ces dernières observations finales concernant le Pérou, le comité a recommandé à l'État parti d'étendre l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en s'intéressant tout particulièrement aux zones rurales et aux communautés autochtones. L'État parti avait signalé qu'en 2023, le programme d'assainissement rural national créé en 2012 avait permis de terminer 80 projets d'assainissement en milieu rural. Mais pour être tout à fait franche, les chiffres précisés dans le rapport semblent relativement réduits. Pourriez-vous donc nous préciser ce qui est prévu pour veiller à ce que 100% du pays puisse avoir accès à une eau potable et un assainissement? En ce qui concerne les programmes de protection sociale et le soutien financier pour les familles plongées dans la pauvreté, que entreprend le gouvernement en la matière? Les politiques couvrent-elles les familles et les enfants dont la langue maternelle n'est pas l'espagnol? Veuillez également nous fournir des informations sur la nature exhaustive des politiques de l'État et leur efficacité s'agissant d'atteindre les enfants défavorisés. J'en viens maintenant aux questions liées aux droits de l'enfant et l'environnement. Nous le savons, le Pérou est confronté à des problèmes environnementaux particuliers qui ont un effet disproportionné sur le droit des enfants de vivre dans un environnement sain, propre et durable. La biodiversité du pays, les écosystèmes qui en dépendent, sont menacés par l'électricité, l'exploitation minière, la déforestation, l'extraction de pétrole en particulier. Veuillez nous fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi cadre sur les changements climatiques de 2018 et sur les mesures prises pour prévenir et réagir aux catastrophes liées au changement climatique, telles que les inondations, les écoulements de boue, les températures extrêmement basses, les cas de sécheresse et les incendies. Mon collègue l'a déjà mentionné. En 2022, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans l'affaire La Oroya, a évoqué dans son jugement une étude du ministère de la Santé de 2005, constatant que 99,9% des enfants de moins de 6 ans testés avaient des concentrations élevées de plomb dans le sang. Or, ce problème s'étend bien au-delà de la Oroya. Tant les rapports du gouvernement que des études scientifiques examinées par des pairs ont recensé des niveaux élevés de plomb dans le sang dans les enfants vivant à Lima, Callao, Cerro de Pasco, Rio Corrientes, Cuyulacocha, Champamarca, Corcona, Carachacra, Cocachacra, Tornamesa, et les bassins fluviaux dans le nord de l'Amazone péruvien. Nous le savons, l'exposition au plomb des enfants, même en quantité infime, risque d'entraîner des retards de développement, l'hypertension, des difficultés d'audition, le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité, une intelligence réduite et des difficultés d'apprentissage. Donc, vous pouvez imaginer à quel point cela préoccupe le comité. Nous le savons, vous avez éliminé progressivement l'essence à plomb et nous savons que vous avez également promulgué des lois concernant le plomb dans la peinture. Mais nous souhaitons savoir quels sont les mécanismes de contrôle mis en place pour garantir le respect de ces réglementations? Nous souhaiterions également avoir des informations détaillées sur les mesures prises pour nettoyer les zones polluées. Je cède maintenant la parole à Faith Marshall-Harris. Merci, Madame la Présidente. Alors, je pense avoir déjà entendu des réponses à un certain nombre de mes questions, puisque nous avons reçu beaucoup d'informations couvrant certains domaines dont je suis chargée.